الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد, dans une époque où se sont multipliés les moyens menant à l'égarement, dans une époque où l'on constate la perte des exemples à suivre et des modèles à imiter en raison de tous ces changements rapides, de tous ces troubles divers et variés qui ouvrent les portes aux différents égarements, nombreux sont parmi les gens ceux qui n'ont plus de guide, qui n'ont plus de modèle, ou qui ne trouvent plus qui imiter, qui suivre, quelle voie suivre. Dans une telle époque, il est très important que le musulman se rappelle qui est son modèle par excellence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sont les modèles venus après lui? As-sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum. Mais Allah n'a jamais laissé cette communauté après les compagnons, sans illustres savants, sans personnalités éminentes, qui sont comme des modèles pour nous autres, les faibles serviteurs. Et ces gens-là sont les savants, connaisseurs de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaisseurs des noms et attributs d'Allah, connaisseurs des règles, des ordres émis par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui savent pourquoi on a été créé. L'imam Al-Ajurri, rahimahullahu ta'ala, rapporte dans son écrit intitulé « Akhlaqul Ulama » les comportements des savants, ce qui suit. كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما. Le noble compagnon Salman al-Farisi رضي الله عنه a écrit une lettre qu'il a adressée à son ami, le compagnon Abu Darda رضي الله عنه, dans laquelle il lui dit: وإنما مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به. L'enseignant, c'est-à-dire le savant qui enseigne aux gens les principes de l'islam, est comme un homme qui a allumé une lampe dans un chemin obscur. Quiconque passe par là s'éclaire grâce à elle, et tous appellent au bien. Après avoir relaté ce récit, Mohammed ibn al-Hussein al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, a dit: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم هكذا العلماء. Al-Ajurri a dit: que pensez-vous, qu'Allah vous fasse miséricorde, d'un chemin rempli de nombreux dangers que les gens doivent emprunter dans une nuit sombre? S'il n'y a pas de lampe, ils seront égarés. Mais Allah leur a accordé des lampes qui leur éclairent le chemin, et ils l'ont suivi en sécurité et préservé. Puis d'autres groupes de gens vinrent, obligés eux aussi d'emprunter ce chemin. Ils l'empruntèrent, et voilà qu'en cours de route, les lampes s'éteignirent, les laissant dans l'obscurité. Que pensez-vous de ce qu'il adviendra de ces gens-là? Tels sont les savants parmi les gens. Beaucoup ne savent pas comment accomplir les obligations, ni comment éviter les interdits, ni comment adorer Allah dans tout ce qu'il a prescrit à ses créatures, sauf grâce au maintien des savants. Et lorsque les savants meurent, les gens sont désorientés, la science disparaît avec eux et l'ignorance se répand. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Quel malheur immense pour les musulmans. Fin de citation. L'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullahu ta'ala, a dit, je cite, « فالله الله وعليكم بملاحظة سير السير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. » par Allah, attachez-vous à observer les biographies des pieux prédécesseurs, à lire leurs ouvrages et leurs récits, car multiplier la lecture de leurs livres, c'est comme les voir. En ce sens, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a dit dans son écrit intitulé « Ar-Risalatu al-Tabukiyya » la lettre de Tabouk, un conseil rédigé par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah de retour de son voyage après avoir accompli le pèlerinage, après avoir fait halte à la ville de Tabouk dans la péninsule arabique, il a rédigé ce conseil dans lequel il oriente ses amis vers le cheminement vers Allah, le cheminement religieux, spirituel. Il leur dit وَمَنْ أَرَادَ هَذَا السَّفَرْ فَعَلَيْهِ بِمُرَافَقَةِ الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ هُمْ فِي الْعَالَمِ أَحْيَا فَإِنَّهُ يَبْلُغُ بِمُرَافَقَتِهِمْ إِلَى مَقْصَدِهِ وَلْيَحْذَرْ مِنْ مُرَافَقَةِ الْأَحْيَا الَّذِينَ هُمْ فِي النَّاسِ أَمْوَاتِ فَإِنَّهُمْ يَقْطَعُونَ عَلَيْهِ طَرِيقَهِ فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة فقد قال بعض السلف شتان ما بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. Et celui qui veut entreprendre ce voyage spirituel doit fréquenter les morts qui restent vivants dans ce monde. C'est-à-dire que ce sont des gens décédés, mais qui par leurs ouvrages, par leurs écrits, par leurs enseignements, leur morale, leur comportement, demeurent vivants au sein des gens, qui ne cessent de prendre pour exemple leur modèle. Car en les accompagnant, il atteindra son objectif, c'est-à-dire l'objectif d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim dit qu'il se méfie de la compagnie des vivants, qui sont parmi les gens considérés comme morts, car ils lui couperont la route. Il s'agit donc ici de gens qui sont physiquement vivants, mais pourtant considérés par les gens de la foi comme étant morts, car ils n'apportent rien d'utile pour le croyant. Ils sont donc comme des morts, il faut s'en méfier et ne pas les fréquenter. Il n'est rien de plus bénéfique pour ce voyageur spirituel que cette compagnie, celle des pieux prédécesseurs. Et rien de plus approprié pour lui que cette séparation, c'est-à-dire des gens de ce bas monde, dont il n'y a nul profit lorsqu'on les fréquente. L'un des pieux prédécesseurs a dit « Quelle grande différence entre des gens morts dont le souvenir fait revivre les cœurs et des gens vivants dont la fréquentation tue les cœurs. » Fin de citation. Après cette introduction, un illustre savant, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. Nous allons voir des aspects de sa vie et voir qui il est et qu'est-ce qu'il représente dans l'islam et combien il a marqué cette religion et a concouru à sa propagation authentique. Nous allons voir cet homme qui a fait revivre l'islam originel dans une époque où nombreux étaient, et le sont toujours d'ailleurs, les hérésies, les innovations, les falsifications de textes, à un point tel que beaucoup se sont égarés. Mais Allah Azza wa Jal ne cesse d'envoyer à la tête de cette communauté des modèles, des revivificateurs, qui appellent les gens à la voie authentique, sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est Abu Abdillah Shamsuddin Mohammed, fils de Abu Bakr, lui-même fils de Ayyub, fils de Sa'd, fils de Hariz, fils de Makki Zainuddin Az-Zur'i, puis Ad-Dimashqi de Damas en Syrie actuelle, Al-Hanbali qui suivait l'école de l'imam Ahmad rahimahullah, qui a été connu sous le nom Ibn Qayyim al-Jawziyya et aussi, pour faire court, Ibn al-Qayyim. Cet imam, rahimahullah, fut l'un des grands imams et des grands savants de l'islam, ayant laissé derrière eux un héritage scientifique richissime. Et il est de la tribu ou du village de Zur'a, qui au moment où je vous parle a changé de nom, qui existe toujours en Syrie, c'est le village qui se nomme Izra'a. Autrefois on l'appelait Zur'a, d'où l'affiliation à ce village quand on dit de lui Az-Zur'i, c'est-à-dire l'homme de Zur'a, puis de Damas. C'est-à-dire que soit il est né à Zur'a, puis il a déménagé à Damas, ou alors, il est né à Damas et ses parents sont venus de Zur'a. Wallahu ta'ala a'lam. Le village de Zur'a, qui est situé dans la région de Hawran, Hawran qui est une grande région dont les terres sont riches et fertiles, qui s'étend du sud de la Syrie jusqu'au nord de la Jordanie. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala est né à l'unanimité des savants qui ont écrit dans sa biographie en l'an 691 de l'égire du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, correspondant à l'année 1292. Et son élève, l'imam As-Safadi rahimahullah ta'ala, nous a même cité la date exacte avec le jour et le mois. Il est né le 7 du mois de Safar de l'an 691, qui correspond approximativement au 25 janvier 1292. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a été connu sous ce nom qui est Ibn al-Qayyim ou alors Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il y a une raison pour cela. Qayyim signifie le responsable. Qayyim al-Jawziyya signifie le responsable de la Jawziyya. Et la Jawziyya, c'est une école en Syrie, qui était dirigée par le père de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui se nomme justement Abu Bakr. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sa kunya est Abu Abdillah. Il a un surnom qui est Shamsuddin. Et son véritable prénom, c'est Mohammed, fils de Abu Bakr. Abu Bakr, le père de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, était le responsable de l'école appelée Al-Jawziyya, située à Damas. Il était donc connu comme étant le responsable de l'école. Puis lorsqu'il a eu des enfants, on disait d'eux, lorsqu'on voyait un de ses enfants passer, « Hadha Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ». C'est le fils du responsable de l'école Al-Jawziyya. Et c'est ainsi que les enfants de Abu Bakr, responsable de l'école Al-Jawziyya, ont été connus chez les gens comme étant le fils du responsable de l'école Al-Jawziyya. Et on l'a appelé l'école Al-Jawziyya parce que le fondateur de celle-ci est le fils de l'imam Ibn al-Jawzi. À ne pas confondre Ibn Qayyim al-Jawziyya avec Ibn al-Jawzi. À ne pas confondre ces deux hommes-là. Ce sont deux hommes différents. Ibn al-Jawzi, c'est Muhyiddin Yusuf. Ça, c'est le fils de l'imam Ibn al-Jawzi. C'est le fils de Abu al-Faraj عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن عبيد ابن الجوزي القرشي البكري البغدادي الحنبلي. Ce savant qui est décédé en l'an 656 de l'égire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant à l'an 1258. Son fils a fondé l'école qui a donc été appelée Al-Jawziya, et par la suite, cette école a eu plusieurs responsables, parmi lesquels le père de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, d'où l'appellation Ibn al-Qayyim al-Jawziya, le fils du responsable de la Jawziya. Jawziya, c'est l'école fondée par le fils de l'imam Ibn al-Jawzi. Beaucoup de gens se sont trompés lorsqu'ils ont confondu ces deux personnalités. Ibn al-Qayyim al-Jawziya, qu'on appelle aussi Ibn al-Qayyim, et Ibn al-Jawzi. Certains se sont trompés et d'autres l'ont fait volontairement pour propager des erreurs dans la croyance dans lesquelles est tombé Ibn al-Jawzi, jusqu'à mettre des titres ou alors jusqu'à publier des livres écrits par l'imam Ibn al-Jawzi qui s'est trompé dans la croyance dans certains points des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont intentionnellement écrit, ce livre a été écrit par Ibn al-Qayyim al-Jawziya, car Ibn al-Qayyim al-Jawziya est accepté chez les gens. Alors, pour les tromper, ils ont fait croire aux gens de certains des livres de Ibn al-Jawzi qui contiennent des erreurs, qu'ils ont été écrits par Ibn al-Qayyim al-Jawziya afin que les gens les lisent et tombent dans ces erreurs. Qu'Allah nous en préserve. Subhanahu wa ta'ala. Il est bon, lorsque l'on étudie la vie d'un savant, de comprendre quel est l'environnement dans lequel il a baigné et dans lequel il a évolué. Car l'environnement agit, influe ou impacte la personne dans ses penchants, dans sa formation personnelle, dans ses choix et autres. Quant à son père, l'imam Ibn Kathir rahimahullah nous dit de lui, dans son livre intitulé « Al-Bidayatu wa al-Nihaya », le début et la fin, un grand livre d'histoire célèbre, il dit « Al-Sheikh al-Salih al-Abid al-Nasik Abu Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd al-Zur'i wal-Sahih al-Zur'i al-Hanbali Qayyim al-Jawziya kana rajulan salihan muta'abbidan qalil al-Takalluf wa kana fadilan » Ibn Kathir a dit du père de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, c'était un homme, un cheikh vertueux, un adorateur dévoué. Abu Bakr, le fils de Ayyub, fils de Sa'd al-Zur'i, de l'école Hanbalit, le responsable de l'école Jawziya, il était un homme pieux, versé ou attaché à l'adoration, et il ne s'imposait pas ce qu'il ne pouvait pas supporter, rahimahullah ta'ala. Il était savant, notamment dans la science de l'héritage. Et c'est de lui que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya a étudié justement la science de l'héritage. On peut donc retenir que l'un de ses premiers enseignants fut son père, Abu Bakr, rahimahullah. Deuxièmement, le frère de l'imam Ibn al-Qayyim, Zainuddin Abu al-Faraj, Abdurrahman Ibn Abi Bakr, qui est né 2 ans après son frère, en l'an 693, correspondant à l'an 1294. Il s'est associé à son frère, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans ses études, et a partagé avec lui la majorité de ses enseignants et de ses shuyukh. Et parmi ses élèves, les élèves du frère de l'imam Ibn al-Qayyim, il y a l'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Zainuddin, le frère d'Ibn al-Qayyim, est décédé en l'an 729, correspondant à l'an 1328 de l'Égire. Dans son entourage, il y a également le fils de son frère, le fils du frère Zainuddin, qui est Imaduddin Abu al-Fida Ismail ibn Zainuddin Abdurrahman qui était parmi les gens émérites et qui avait gardé la bibliothèque de son oncle Ibn al-Qayyim rahimahullah justement après sa mort. Zainuddin est décédé en l'an 799 de l'Hégire, correspondant à l'an 1396. Ensuite, il y a eu son fils, Abdullah, le fils de l'imam Ibn al-Qayyim. Abdullah Sharafuddin, on l'appelait aussi Jamaluddin, qui est né en l'an 722 de l'Hégire et qui est décédé en l'an 756, c'est-à-dire 1323, et décédé en l'an 1355. Abdullah, le fils de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, était extrêmement intelligent et il avait une mémorisation très rapide. Il a d'ailleurs mémorisé Suratul A'raf en 2 jours. Et il a commencé à diriger la prière en l'an 731, c'est-à-dire qu'il avait 9 ans. À 9 ans, il avait commencé à diriger la prière, c'est-à-dire le fils de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et il a également enseigné dans une école appelée As-Sadriya, une madrasa salafiya connue à leur époque. Et les savants ont parlé de lui en bien. Également, parmi les gens de l'entourage d'Ibn al-Qayyim, son deuxième fils Ibrahim. Ibrahim qui était un très grand savant, linguiste, mais aussi jurisconsulte. Il maîtrisait la langue arabe. Il maîtrisait également la jurisprudence islamique. Il est né en l'an 716 de l'Hégire et décédé en l'an 767. Il a étudié tout d'abord chez son propre père, qui est l'imam Ibn al-Qayyim, rahimallah, et autres également. Puis il s'est mis en avant, notamment pour l'enseignement et l'émission des fatawa, la réponse aux questions, aux problématiques que rencontraient les musulmans de son époque. Il a eu une grande célébrité et il suivait la voie de son père, rahimahullah ta'ala, dans la prédication et l'enseignement. Et il était aussi riche. Lorsqu'il est décédé, on dit qu'il a laissé derrière lui plus de 100 000 dirhams, ce qui valait beaucoup. Quant au comportement et aux moralités de l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, Ibn al-Qayyim, comme vous l'avez entendu, a évolué dans un environnement sain, dans une famille pieuse. Les savants qui ont écrit dans sa biographie, parmi lesquels l'imam Ibn Kathir, l'imam Ibn Rajab, l'imam Ibn Hajar et d'autres encore, sont unanimes pour dire que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah était un homme de foi, un homme vertueux. Il avait parmi les meilleurs des comportements. Il était d'ailleurs considéré comme les grands. Il était considéré comme les grands dans le comportement, la science, dans le mérite. Ibn Kathir, alayhi rahmatullah, qui était un de ses élèves les plus proches, a dit « وَكَانَ حَسَنَ الْقِرَاءَ وَالْخُلُقْ كَثِيرَ التَّوَدُّدْ لا يحسد احدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه. Ibn al-Qayyim était un homme de très bonne lecture, de très bon comportement. Il savait se faire aimer des gens. Il n'était jaloux de personne. Il ne nuisait personne. Il ne dénigrait personne et ne portait en lui aucune haine pour les gens. وبال جملة كان قليلا النظر في مجموعه وأموره وأحواله. Et de manière générale, il s'intéressait très peu à sa propre situation. والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. Et ce qui apparaissait le plus en lui, c'était le bien et les bons comportements. Ibn Kathir a aussi dit de lui: وكنت أصحاب الناس له وأحب الناس إليه. J'étais parmi les gens l'un de ses plus proches compagnons et l'un des gens qu'il aimait le plus. Son autre élève, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, a dit وَكَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَا عِبَادَةٍ وَتَهَجُّدْ وَطُولِ صَلَاةٍ إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, était un homme de dévotion. et ils adoraient Allah la nuit. Ils faisaient des prières et atteignaient le summum dans la longueur de la prière. Ils priaient longuement. Ils évoquaient Allah abondamment et étaient fortement attachés à la question du repentir, de la demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils témoignaient sa dépendance à Allah azza wa jal. Ils se fendaient, ils se fragmentaient devant Allah et devant sa grandeur. Ibn Rajab a dit « Lam ushahid mithla » « Je n'ai jamais vu un semblable à cet homme-là. » « Fidhalik »« Wala ra'aytu awsa'a minhu ilma » « Et je n'ai pas vu quelqu'un à la science plus vaste que la sienne. » « Wala a'rafa bima'ani al-Qur'an wa sunna » « Non plus connaisseur des sens profonds du Qur'an et de la sunna » « Wa haqa'iq al-Iman a'lama minh » « Et des réalités de la foi plus connaisseur que lui. » Il n'est certes pas infaillible, mais je n'ai jamais vu dans ce sens quelqu'un de semblable à lui. Et il a dit cela dans son livre « Zayl Tabaqat al-Hanabila ». Parmi ses comportements, le fait qu'il encourageait les gens à pardonner à celui qui demandait pardon. D'ailleurs, dans un de ses écrits, il dit, je cite, Man asa'a ilayk, je vais aller directement en français pour gagner du temps. Quiconque te cause un tort, puis vient à toi pour te demander pardon après t'avoir causé ce tort. La modestie impose que tu acceptes sa demande de pardon. Qu'il soit véridique en cela ou non, et que tu remettes son fort intérieur et son intention à Allah. Comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les hypocrites qui ont déserté la bataille de Tabouk, après laquelle ils sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont fait mine de lui présenter ses excuses en avançant différentes excuses et raisons qui n'étaient pas valables. Le prophète alayhi salatu wa sallam a accepté en apparence leurs excuses et a remis leur intention à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir a dit « وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنْ تُقِصَ كَمَنْ تُقِصَ فَكَانَ لَا يُقَابِلُ الْإِسَاءَةَ إِلَّا بِالْإِحْسَانِ وَلَا يُقَابِلُ الْجَهْلَ إِلَّا بِالْحِلْمِ » Nous n'avons connu personne parmi les savants qui a été dénigré comme l'a été l'imam Ibn al-Qayyim. Et pourtant, il ne répondait au dénigrement et au tort qui lui était causé que par la bienfaisance. Et il ne faisait face à l'ignorance que par le bon comportement. Quant à ses adorations et son renoncement à la dunya, nul doute que celui qui lit ses différents ouvrages avec profondeur constatera combien le cœur de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah était attaché à la dépendance à Allah, à la servitude, au repentir. Il était riche dans cela, rahimahullah, et il était sur la voie des pieux prédécesseurs. Il n'était pas sur la voie du soufisme dans l'adoration d'Allah qu'il considérait pour lui comme un remède et comme un bien pour l'âme. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit, et Ibn al-Qayyim a été éprouvé. On lui a porté nombreuses nuisances au point où il a été emprisonné avec son cheikh Taqiyuddin. Taqiyuddin, c'est l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. On va en parler dans un futur chapitre, inshallah. La dernière fois, il fut emprisonné dans la citadelle et il a été isolé de son cheikh et n'a été libéré qu'après le décès de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Rajab, rahimahullah, nous dit quelque chose d'intéressant. Pendant qu'il était en prison, il occupait son temps par la lecture du Coran avec méditation. Il méditait en profondeur le Coran qu'il lisait et qu'il récitait, au point où cela lui a permis d'acquérir des sciences profondes dans l'explication du Coran. Et il a pu accomplir le pèlerinage à plusieurs reprises Et ça, on va en parler bientôt, inshallah ta'ala. Son autre élève, Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, c'est une phrase lourde. La a'rifu fi hadha al-'alami fi zamanina akthara 'ibadatan minhu. Je ne connais pas dans ce monde entier, à notre époque, il faut savoir que l'époque dont il parle est l'époque des savants. À Damas, où a vécu Ibn al-Qayyim rahimahullah, cette ville regorge de savants de l'islam. Ibn Kathir a dit, je ne connais pas dans ce monde, dans notre époque, quelqu'un qui soit plus adorateur que lui, plus dévoué dans les adorations. وَكَانَتْ لَهُ طَرِيقَةٌ فِي الصَّلَاةِ. Il avait une manière de prier. يُطِيلُهَا جِدًّا. Il l'allongeait énormément sa prière. وَيَمُدُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا. Et il allongeait sa prosternation et ses inclinaisons. Au point où ses compagnons le blâmaient pour cela, sans pour autant qu'il ne prête attention à leurs paroles et qu'il ne change rien de cela. Allahu Akbar. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit, وَكَانَ إِذَا صَلَّ الصُّبْحَ جَلَسَ مَكَانَهُ يَذْكُرُ اللَّهِ حَتَّى يَتَعَالَ النَّهَارِ. Il avait pour habitude, après avoir prié la prière du Fajr de l'aube, de rester à son endroit, à évoquer Allahu Azza wa Jal jusqu'à ce que le jour se lève. Et il disait, وَيَقُولُ هَذِهِ غَدْوَتِي لَوْ لَمْ أَقْعُدْهَا سَقَطَتْ قُوَايِ. C'est comme mon petit déjeuner, c'est comme mon plat du matin. Si je ne m'assieds pas pour le faire, mes forces fléchiront. Et cette parole-là, il l'avait reprise de son cheikh et de son éducateur, de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et cela a été relaté par Ibn Hajar dans son livre Ad-Durarul Kamina. Et subhanallah, malgré le degré d'adoration, de servitude, de dévotion, constaté par les savants de son époque, chez l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans l'un de ses ouvrages intitulé Tariqul Hijratayn wa Babu Sa'adatayn, la voie vers les deux émigrations et la porte vers les deux bonheurs, Ibn al-Qayyim va décrire la journée des gens les plus rapprochés d'Allah, qui ont devancé les autres. Il est très intéressant d'écouter ce qu'il dit, avant même de les décrire. Il dit, je cite, « وَأَمَّا السَّابِقُونَ الْمُقَرَّبُونَ فَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ أَوَّلًا مِنْ وَصْفِ حَالِهِمْ وَعَدَمِ الْإِتِّصَافِ بِهَا بَلْ مَا شَمَمْنَا لَهُ رَائِحَةً وَلَكِنَّ مَحَبَّةَ الْقَوْمِ تَحْمِلُ عَلَى تَعَرُّفِ مَنْزِلَتِهِمْ وَالْعِلْمِ بِهَا وَإِنْ كَانَتِ النُّفُوسُ مُتَخَلِّفَةً مُنْقَطِعَةً عَنِ اللِّحَاقِ بِهِمْ. الله أكبر. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, quant aux devanciers les plus rapprochés, c'est-à-dire, je vais vous parler des gens qui ont devancé les autres dans le bien et qui sont les plus rapprochés d'Allah, quant à ces gens-là, alors tout d'abord j'implore le pardon d'Allah, celui en dehors duquel aucune divinité ne mérite l'adoration. Je lui demande pardon de décrire ces gens-là sans en faire partie. Et je n'ai jamais pu sentir leur odeur. C'est-à-dire, je ne leur ressemble en rien, ni de près ni de loin. Je n'ai pas senti leur odeur. Et celui qui lit les ouvrages d'Ibn al-Qayyim et qui apprend qui est cet homme, sait de façon sûre que ce qu'on espère d'une telle personne, c'est qu'il en fait partie. Il dit, mais l'amour que l'on éprouve pour ces gens nous pousse à connaître leur degré et leur science, combien même nos âmes seraient loin derrière eux. Fin de citation. En cela, son élève, As-Safadi, rahimahullah, a évoqué des vers de poésie qui ont été écrits par l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, que je vais vous lire et dont je vais lire la traduction. Ibn al-Qayyim a dit en parlant de lui-même, « Bunayu Abi Bakrin kathirun dhunubuhu » فليس على من نال من عرضه إثم بني أبي بكر جهول بنفسه جهول بأمر الله أن له العلم بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وهو ليس له علم بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم، بني أبي بكر يرى الغنم في الذي يزول ويفنى والذي تركه الغنم، بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم، بني أبي بكر كما قال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم، بني أبي بكر وأمثاله غدوا بفتواهم هذه الخليقة تأتم، وليس لهم في العلم باع ولا التقى ولا الزهد، والدنيا لديهم هي الهم، فوالله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم قالوا هم السم والبكم. سبحان الله. ابن القيم a dit, je cite, l'enfant d'Abu Bakr, c'est-à-dire l'imam Ibn al-Qayyim, le fils d'Abu Bakr, ses péchés sont nombreux. Nul reproche sur celui qui le critique. L'enfant d'Abu Bakr, ignorant de lui-même, ignorant du commandement d'Allah, comment aurait-il donc la science? L'enfant d'Abu Bakr s'est mis en avant. Il enseigne une science alors qu'il n'en a pas. L'enfant d'Abu Bakr nourrit des ambitions d'atteindre les sommets alors que ses péchés l'occupent. L'enfant d'Abu Bakr cherche à s'élever vers le paradis de refuge sans en avoir la détermination. L'enfant d'Abu Bakr voit un gain dans ce qui périra et disparaîtra et délaisse ce qui est un vrai butin. L'enfant d'Abu Bakr, sa quête est vaine s'il ne prend pas part aux œuvres vertueuses. L'enfant d'Abu Bakr est, comme a dit son Seigneur, avide et ingrat. L'ignorance et l'injustice sont son portrait. L'enfant d'Abu Bakr et ceux qui lui ressemblent, c'est-à-dire parmi les savants, sont devenus des références pour les gens par leur fatwa qu'ils suivent. Et pourtant, ils n'ont ni savoir, ni piété, ni renoncement à la dunya. Leur seul souci, c'est la vie d'ici-bas. Et par Allah, si les compagnons étaient là et voyaient les meilleurs d'entre eux, ils diraient « Ce sont des sourds et muets ». Fin de citation. Quand j'ai préparé cette conférence et que j'ai lu ces vers de poésie, je me suis dit, et qu'est-ce qu'on va dire nous de nous-mêmes? Qu'Allah nous pardonne. Quant à la science de l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, son élève Ibn Rajab a dit, تَفَقَّهَ فِي الْمَذْهَبْ وَبَرَعَ وَأَفْتَى. Ibn al-Qayyim s'est instruit dans le madhhab, c'est-à-dire dans l'école de l'imam Ahmad, dans laquelle il a excellé et il s'est mis à émettre même des fatwas. Il a fréquenté longuement son cheikh Taqiyuddin ibn Taymiyyah rahimahullah. Il s'est élargi dans les sciences de l'islam. Il était très connaisseur du tafsir, inimité dans cela, dans les fondements de la religion. Vers lui s'arrêtait cette science. Dans la connaissance profonde du hadith, de ses sens et des manières d'en tirer des leçons, personne ne pouvait le rejoindre dans cela. Dans la jurisprudence et ses fondements, dans la langue arabe dans laquelle il avait une main très longue, et dans d'autres sciences également. Fin de citation. La dernière phrase est un résumé. Quand j'ai dit dans d'autres sciences également, ce n'est pas la parole de son élève Ibn Rajab, c'est un résumé. Je ne peux pas lire toute la parole de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah. Ensuite, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, il a appris le hadith et s'est occupé par la science dans laquelle il a excellé dans nombreux domaines de la science, particulièrement la science du tafsir, du hadith et des deux fondements, c'est-à-dire les fondements de la croyance islamique et les fondements de la jurisprudence. Et lorsque son cheikh, l'imam Ibn Taymiyyah, est revenu de son voyage d'Égypte en l'an 716, c'est-à-dire à l'époque où Ibn Qayyim avait 21 ans. Il s'est collé à lui jusqu'à sa mort et il a pris de lui une grande science dans tous les domaines. Il est devenu unique en son genre. Rahimahullah ta'ala. L'imam Ibn Rajab Ibn Hajar pardon a dit wa kana jari al-janan wasi' al-'ilm 'arifan bil khilaf wa madhahib as-salaf. Ibn Rajab avait un cœur vaste. Il avait une science énorme et il était très connaisseur des différentes écoles des pieux prédécesseurs. On retient donc qu'il a commencé à étudier avec l'imam Ibn Taymiyyah alors qu'il avait 21 ans. Allahu Akbar. Parce que des fois, quand on entend ce genre d'éloge, on pense qu'il s'agit de gens qui ont 65 ans ou 70 ans. Non. Au moment où je vous parle, Ibn al-Qayyim a 21 ans, alayhi rahmatullah, quand il a rencontré son élève, son cher, pardon, Ibn Taymiyyah. Concernant les voyages de l'imam Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, les savants n'ont évoqué parmi ces voyages que le fait qu'il ait voyagé en Égypte et ses nombreux voyages au pèlerinage. C'est la seule chose que l'on retrouve, comme a dit le savant Bakr Abu Zayd, rahimahullah, lorsque l'on parle des voyages de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, on trouve qu'il a voyagé en Égypte et on le découvre dans certains de ses écrits dans lesquels il raconte certaines situations auxquelles il a pu faire face, notamment quand il a débattu avec des personnes juives en Égypte. C'est comme ça qu'on a appris qu'il était en Égypte, alayhi rahmatullah. Et ses voyages au pèlerinage à la Mecque. On ne retrouve pas d'autres voyages que cela. Ça peut être dû à plusieurs raisons. Soit parce que ses ouvrages ont donc été perdus. On ne peut donc plus savoir quand, où est-ce qu'il a été parce que les ouvrages où il a consigné ses voyages ont été perdus. Ou alors, parce qu'il y avait tellement de savants à Damas, ce qui est un cas réel, à son époque, qu'il n'avait pas besoin de voyager, plus particulièrement quand est arrivé à Damas son cheikh, l'imam Ibn Taymiyyah, qui est arrivé d'Égypte. Donc effectivement, il y avait énormément de science à son époque, il n'avait pas besoin de voyager, et Allah est plus savant. Wallahu ta'ala a'lam. L'imam Ibn Rajab, rahimallah, qui était un de ses plus proches élèves, a dit وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. Il a accompli le pèlerinage à la Mecque à plusieurs reprises et a passé du temps à Mecca lorsqu'il s'y rendait. Les habitants de Mecca témoignaient de lui une dévotion, une adoration extrême et un très grand nombre de tawaf. La circumambulation, le fait de tourner autour de la Kaaba. Il évoquait de lui ce qu'il y avait de plus étonnant. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim rahimallah lui-même, dans différents ouvrages, va raconter certaines scènes ou certaines choses qui se sont produites lors de ses différents voyages à la Mecque. Parmi lesquelles, le fait qu'il ait rédigé le livre Miftahu Dar al-Sa'ada, un grand ouvrage bénéfique qu'il a écrit en voyage, car beaucoup des livres de l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ont été écrits alors qu'il voyageait, subhanallah, parmi lesquels celui-là. Ibn al-Qayyim a dit wa kana hadha min ba'd an-nuzul wa at-tuhaf allati fataha Allah biha alayhi hina inqita'i ilayhi 'inda baytihi wa ilqa'i nafsi bi babihi miskinan dhalilan wa ta'arrudi li nafahatihi fi baytihi wa hawlahu bukratan wa asila. فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, dans la fin du livre Miftah Dar al-Sa'ada, va dire ce qui, de façon approximative, signifie que l'écriture de ce livre fait partie des cadeaux qui m'ont été donnés par Allah subhanahu wa ta'ala lorsque je me suis coupé de ce bas monde et que j'ai jeté mon âme à sa porte, pauvre et besogneux, de matin comme de soir, car certes, ne perdra jamais, n'échouera jamais quiconque fait descendre ses besoins et les attache et attache tous ses espoirs à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Également, l'histoire de sa guérison après avoir bu l'eau de Zamzam, lorsqu'il était à la Mecque, Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala a dit « Et lorsque j'étais à Mecca, pendant ma présence là-bas, j'ai été atteint de plusieurs maladies. Et il n'y avait là-bas nul docteur ni médicament comme on pouvait le trouver dans les autres villes. Je me soignais alors à l'aide du miel et de l'eau de Zamzam. et je voyais en cela un effet extrêmement étonnant. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a cité un autre cas où il s'est soigné avec l'eau de Zamzam dans son livre Madarij al-Salikin, lorsqu'il dit: j'ai essayé cela en moi-même et avec des gens aussi, et j'ai trouvé ce qu'il y avait d'étonnant, particulièrement lorsque j'étais à la Mecque, et qu'il m'arrivait d'avoir des douleurs dérangeantes à un point tel que mes membres n'arrivaient presque plus à bouger pendant mon tawaf, lorsque je tournais autour de la Kaaba. Je m'empressais alors de réciter la sourate al-Fatiha, puis j'essuyais avec ma main l'endroit où je ressentais la douleur. Et il dit, et j'avais l'impression que des pierres tombaient de cet endroit. J'ai essayé cela plusieurs reprises et j'ai même pris un bol dans lequel il y avait de l'eau de Zamzam sur lequel j'ai récité Sourate al-Fatiha plusieurs fois. Je buvais de cette eau et je trouvais une utilité et une force que je ne trouvais pas dans des médicaments. Mais regardez ce qu'il va dire après. والأمر أعظم من ذلك ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين والله المستعان. Mais cela dépend de la force de la foi et de la force de l'authenticité de la certitude en Allah, et Allah est celui à qui on demande l'aide. Fin de citation. On apprend donc que ces remèdes qui sont évoqués dans le Coran, dans la Sunna, Zamzam, Al-Ajwa, Al-Asal, le miel, et toutes ces choses-là, Al-Habbatu Sauda, ces remèdes-là, l'impact dépend de la certitude que l'on a en Allah, subhanahu wa ta'ala. Sinon, il y a plein de gens qui récitent Al-Fatiha dans l'eau de Zamzam sans pour autant guérir. D'où vient le secret? De la foi, de la certitude en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim nous raconte, subhanallah, qu'il a perdu un de ses enfants la veille du premier jour du Hajj. Il nous dit dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, dans le chapitre en rapport avec al-Fa'l, l'optimisme, dans lequel il encourage à penser du bien d'Allah, à être optimiste. Il dit: et je vais t'informer de quelque chose me concernant à ce sujet. Et c'est le fait que j'ai perdu un de mes enfants le jour de Tarwiya. Le jour de Tarwiya, c'est le premier jour où on commence le Hajj, le 8 du mois de Dhul-Hijja. J'ai perdu un de mes enfants à la Mecque. Je me suis fatigué à sa recherche. Je l'ai appelé partout, dans les différents groupes de voyageurs, jusqu'à arriver au jour de Tarwiya, le 8e jour. Alors je ne l'ai pas retrouvé et j'ai commencé à désespérer. Un homme m'a dit: إن هذا عجز اركب وادخل الآن إلى مكة. C'est une incapacité qui ne convient pas. Monte sur ta monture et retourne à la Mecque et va chercher ton fils encore une fois. Ibn al-Qayyim a dit: je suis monté sur un cheval et je me suis rendu à la Mecque. Et j'ai rencontré en pleine nuit un groupe de gens qui discutaient entre eux. L'un d'entre eux a dit: j'ai perdu quelque chose et je l'ai retrouvé. Ibn al-Qayyim a dit: et alors je ne sais pas si le fait d'avoir retrouvé mon fils est ce qui a été le plus rapide, ou alors la fin de la parole de cet homme-là. C'est-à-dire, l'homme a dit: j'ai perdu quelque chose et je l'ai retrouvé. Ibn al-Qayyim rahimallah a regardé et qu'est-ce qu'il a vu? Son fils qu'il a reconnu avec sa voix, avec un groupe de gens. Subhanallah. Allahu Akbar. Également, parmi ce qu'il nous raconte dans ses voyages, et ça, ça va nous montrer son attachement à la Sunna, le fait que pendant les rites du pèlerinage, notamment à la mosquée de Mina, Masjid al-Khayf, cette mosquée où 70 prophètes ont prié, il y avait des gens, parmi les gens du soufisme, qui invoquaient Allah de façon innovée et qui se mettaient même jusqu'à danser, à chanter et à taper du tambourin. Ibn al-Qayyim rahimallah nous raconte cela dans son livre Irathatul Lahfan. Il nous dit que, subhanallah, il nous dit: وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُمْ مِنْهُ بِالضَّرْبِ. On les a fait sortir de la mosquée en les frappant. والنفي, et on les a exclus de cet endroit. Miraran, à plusieurs reprises. Il dit, je les ai vus faire cela. ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه. Je les ai vus faire ces pratiques-là au sein même de la mosquée Al-Haram à Mecca. Alors que les gens étaient dans le tawaf, Ibn al-Qayyim a dit, فَاسْتَدْعَيْنَا حِزْبَ اللَّهِ وَفَرَّقْنَا شَمْلَهُمْ. On a alors appelé le groupe d'Allah, c'est-à-dire les gens de la sunna du tawhid. On les a appelés, on les a réunis et on a viré ces gens-là. Allah Akbar, qu'Allah le récompense. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah était admiratif des livres. Son amour était intense. Il avait énormément de livres, rahimahullah ta'ala. Et c'est ce qui était la cause de sa profonde connaissance des différents avis. Car lorsqu'il traitait une question, qu'il s'agisse d'une question dogmatique dans la croyance, de jurisprudence, de tafsir, il était très étonnant lorsqu'il évoquait les différents avis, les différentes paroles des savants de son époque et d'avant lui. Ceci car il avait énormément de livres. Rahimahullah. Ibn Kathir a dit, وَاقْتَنَا مِنَ الْكُتُبِ مَا لَا يَتَهَيَّأُ لِغَيْرِهِ تَحْصِيلُ عُشْرِ مِعْشَارِهِ مِنْ كُتُبِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. Ibn Kathir a dit, Ibn al-Qayyim a possédé des livres. Il avait un nombre de livres que autres que lui ne pouvaient même pas avoir un dixième de ce qu'il avait, des livres des salafs et des khalafs, des successeurs et des prédécesseurs. Ibn Hajar a dit, وَكَانَ مُغْرًا بِجَمْعِ الْكُتُبِ. Il était profondément pris par l'amour de réunir et rassembler les livres. فَحَصَّلَ مِنْهَا مَا لَا يُحْصَى. Au point d'acquérir ce que l'on ne peut dénombrer. حَتَّى كَانَ أَوْلَادُهُ يَبِعُونَ مِنْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ دَهْرًا طَوِيلًا. Au point où après sa mort, ses enfants ont vendu des livres à Ibn al-Qayyim pendant une longue période. Ça n'arrêtait pas. Il vendait tellement il avait des livres. Rahimahullah ta'ala. Mais ces livres-là, il les lisait, il les étudiait. Il ne s'agit pas simplement d'avoir plein de livres que tu regardes dans ta bibliothèque sans pour autant les ouvrir. Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, avait tous ces livres qu'il étudiait et qu'il lisait, mais plus encore qu'il comprenait, rahimahullah. Quels sont les différentes actions faites par l'imam Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah ta'ala? Selon ce qu'évoquent les savants qui ont écrit dans sa biographie, premièrement, il y a la fonction d'imam. Effectivement, dans l'école al-Jawziya, là où il a étudié, il était l'imam en même temps. D'ailleurs, son élève Ibn Kathir a dit de lui « Huwa imamul Jawziyati wa Ibn Qayyimiha ». C'était l'imam de la Jawziya et le fils de son responsable. Et c'est d'ailleurs Ibn al-Qayyim rahimahullah la première personne qui a prononcé le discours du vendredi dans la mosquée qui a été construite par Najmuddin en l'an 736 de l'Hégire. Deuxièmement, l'enseignement, qui était un résultat inévitable de ses études, sans le moindre doute. Il a étudié énormément, au point de devenir apte à enseigner. Et parmi ses élèves, des très grands savants, l'imam Ibn Rajab, l'imam Al-Zahabi, qui aussi a écrit dans sa biographie, dans son livre Siyar al-A'lam al-Nubala, l'imam Ibn Kathir, et d'autres encore, qui ont été de ses élèves. Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a enseigné à un âge jeune. Après la mort de son cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim avait 37 ans. Il a rencontré Ibn Taymiyyah à 21 ans. Ibn Taymiyyah est décédé. Ibn al-Qayyim avait 37 ans. Il a étudié 16 ans auprès de lui. ce qui prouve qu'il a étudié alors qu'il était encore jeune. Quatrièmement, la mise en avant pour l'émission des fatawas, mais aussi les débats, le débat scientifique. Son élève Al-Zahabi a dit « كان من عيون أصحاب ابن تيمية وأفتى ودرس وناظر وصنف وأفاد » Il dit de lui, il faisait partie des élèves plus particuliers de l'imam Ibn Taymiyyah. Il émettait des fatawas, il enseignait, il débattait, il écrivait et il donnait profit aux gens. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, s'est fait emprisonner dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il a été emprisonné? Très intéressant de le voir. Il a été emprisonné parce que il a émis des fatawas qui ne correspondaient pas, qui n'étaient pas en accord avec les fatawas en vigueur à son époque. Il est très important de comprendre que le contexte où vivait l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah était particulier. Il y avait effectivement un très grand nombre de savants de la sunna, mais en même temps un très grand nombre d'innovateurs et d'innovations qui ont été combattus par son cheikh Ibn Taymiyyah et par lui-même qui a pris la relève de l'étendard de la sunna après lui, ainsi que ses élèves Ibn Kathir, Ibn Rajab, Al-Zahabi et d'autres encore. Et donc, dans ce contexte-là, où il y a beaucoup d'innovations à combattre, beaucoup de choses mauvaises, nul doute qu'il va rencontrer des difficultés. Ce fut le cas, notamment, lorsqu'il a émis la fatawa dans la question que l'on appelle « al-talaqu al-thalath bilafdin wahid », le fait de prononcer le divorce avec, comment vous dire ça, le fait de prononcer le divorce, vous savez que la personne, quand elle a divorcé trois fois son épouse, elle ne peut plus revenir à elle, sauf si cette épouse divorcée se marie avec quelqu'un, puis est divorcée, à ce moment-là, ils peuvent revenir ensemble. Et il y a une question qui est justement, est-ce que quand la personne dit, l'homme dit à sa femme, « Je te divorce trois fois », et il n'est pas question de dire « je te divorce, je te divorce, je te divorce ». Là, il a prononcé trois fois la phrase. On parle de prononcer la phrase une fois et de dire trois fois. Quand on dit « je te divorce trois fois », est-ce que le divorce devient effectif? C'est-à-dire, est-ce qu'il est compté comme trois fois ou non? La majorité des savants de son époque disaient que non, La majorité des savants de son époque disaient que, subhanallah, Naam, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala disait que le fait de dire « je te divorce » trois fois n'était pas compté. Alors que la majorité des gens de son époque disaient le contraire. Subhanallah, à cause de ça, Ibn al-Qayyim a rencontré beaucoup de problèmes, notamment avec certains juges de son époque. La deuxième chose, c'est la fatwa sur la question de la course. Lorsque deux personnes font une course à cheval et qu'ils parient de l'argent pour cela, ce n'est pas permis, sauf si un troisième qu'on va appeler un muhallil va entrer sans poser de l'argent. À ce moment-là, la nature de la question change et l'opération, si on peut l'appeler comme ça, va devenir licite. Ibn al-Qayyim rahimahullah a fait un effort d'interprétation et a dit « si, c'est valable même si un muhallil n'intervient pas dans la question ». Il ne s'agit pas ici de développer la question, il s'agit juste de dire de manière générale pourquoi il a été emprisonné. Donc quand il a émis cette fatwa, Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a eu un grand problème. Troisièmement, lorsqu'il a blâmé le fait de voyager pour aller visiter la tombe de Al-Khalil Ibrahim alayhi salam, Ibn Rajab rahimahullah a dit وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل. Ibn al-Qayyim a été emprisonné un certain moment lorsqu'il a interdit aux gens de voyager vers les tombes. Également, la question de al-shafa'a et du tawassul, la question de rechercher l'intercession auprès des pieux, auprès des saints, auprès des prophètes. Ibn al-Qayyim a démonté les arguments de ceux qui prétendaient qu'il était bon de le faire et il les a appelés au tawhid. Et à cause de ça, eh bien, il s'est fait frapper. Lui et son cheikh Ibn Taymiyyah se sont fait frapper et il a été emprisonné. Il avait à cette époque-là 35 ans. Rahimahullah ta'ala. Et il s'est fait emprisonner avec son cheikh. Ensuite, parmi les actions de l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, le fait d'écrire des livres. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu. On parlera plus tard de ces livres, inshallah ta'ala. Ensuite, sa rencontre avec l'imam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Lorsque l'imam Ibn Taymiyyah est arrivé et s'est installé en Syrie après avoir passé du temps en Égypte, il a rencontré l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Je n'ai pas trouvé les détails de cette rencontre, j'aurais tant aimé les trouver, mais Allah Ta'ala a'lam. L'un a apprécié l'autre. Et alors Ibn al-Qayyim est devenu son élève le plus rapproché. Et les savants, historiens, sont unanimes pour dire que cette rencontre a eu lieu en l'an 712. C'est-à-dire quand l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah avait 21 ans. Il faut savoir quelque chose. Ibn al-Qayyim rahimahullah, avant de rencontrer Ibn Taymiyyah, était égaré. Il était soufi, ash'ari. Et il était égaré dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en début de la conférence, lorsque je vous ai dit que Ibn al-Qayyim n'était pas sur la voie du soufisme, c'est-à-dire après qu'il ait rencontré son cheikh, rahimahullah ta'ala. Son cheikh l'a pris par la main et lui a enseigné les fondements de l'islam. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit une poésie qu'il a intitulée An-Nouniya, parce qu'elle se termine toujours par la lettre Noun, dans laquelle il évoque son repentir et son retour à la sunna par la cause de la rencontre de son cheikh. Il dit « Ya qawmi wallahi al-azim nasihatun min mushfiqin wa akhil lakum mi'wani jarrabtu hadha kullahu wa waqa'tu fi tilka shibaki wa kuntu dha tayarani hatta ataha liya al-ilahu bifadlihi man laysa tajzihi yadi wa lisani habrun ata min ardi harran faya ahlan biman jaa min harrani فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. Ô mon peuple, par Allah l'immense, voici un conseil. D'un frère qui vous veut du bien, j'ai expérimenté tout cela, c'est-à-dire toutes ces innovations. L'innovation du soufisme, de l'interprétation erroné des noms et attributs d'Allah, etc. J'ai expérimenté tout cela et je suis tombé dans ses filets alors que j'étais plein d'élan et de vigueur jusqu'à ce que par sa grâce, Allah me favorise en m'envoyant quelqu'un que ni ma main ni ma langue ne sauraient récompenser. Un savant venant de la terre de Harran, l'origine de l'imam Ibn Taymiyyah. Alors bienvenue à celui qui est arrivé de Harran. Qu'Allah lui accorde la récompense qui lui est due par le paradis du refuge éternel accompagné de sa satisfaction. Il prit ma main dans la sienne et chemina sans relâche jusqu'à me montrer le lever de la foi. Allahu Akbar. L'imam Ibn al-Uthaymin rahimahullah a dit que l'imam al-Qayyim au début était un soufi mubtadi', innovateur. Il est tombé dans les filets de ces innovateurs. Mais Allah a voulu le guider et lui a facilité la guider. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibn Taymiyyah a éduqué Ibn al-Qayyim et lui a donné plusieurs conseils que nous a mentionné d'ailleurs Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, notamment dans son livre Miftah ou Dar al-Sa'ada. Pour gagner du temps, je vais lire directement en français. Il dit, Cheikh al-Islam rahimahullah m'a dit, alors que je lui présentais objection après objection, ne fais pas de ton cœur une éponge qui absorbe les objections et les ambiguïtés, car il ne dégagera alors que cela, mais fais-en un cœur comme un verre solide. Les ambiguïtés passent à sa surface sans y pénétrer. C'est-à-dire, arrête d'avaler les ambiguïtés et fais que ton cœur soit comme quelque chose qui est en verre, suffisant pour que tu puisses voir les égarements et les ambiguïtés arriver sans pour autant qu'elles ne puissent te pénétrer car tu es comme du verre. Et c'est comme ça que doit être le connaisseur de la sunna, le connaisseur de la croyance. Il doit connaître le mal, mais il en est protégé par sa science. Mais fais-en un cœur comme un verre solide. Les ambiguïtés passent à sa surface sans y pénétrer. Il les voit grâce à sa clarté et les repousse par sa solidité. Sinon, tu laisses chaque ambiguïté imprégner ton cœur, il deviendra une demeure pour tous les doutes ou une parole proche de celle-ci. Ibn al-Qayyim a dit, et je ne pense pas avoir tiré autant de profit d'un conseil pour repousser les ambiguïtés que de celui-là. Il nous dit aussi, rahimahullah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah m'a dit un jour, les épreuves et les difficultés sont comme la chaleur et le froid. Si le serviteur sait qu'il ne peut y échapper, il ne s'en met pas en colère, ne s'en afflige pas et ne s'en attriste pas. Ainsi, le serviteur patiente face à ses épreuves sans qu'elles ne le fassent faiblir ni reculer. Allahu Akbar. Il dit aussi, un jour, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah me dit à propos de quelque chose de permis. C'est-à-dire des choses qui sont autorisées, mais qu'il ne convient pas de faire quand on est un savant qui veut atteindre les niveaux les plus élevés de la foi. Là, il ne parle même pas des choses haram, des choses makruha, des choses détestables. Il est en train de l'éduquer sur le fait de délaisser des choses qui sont licites, car il ne convient pas pour quelqu'un qui veut atteindre les plus grands degrés de la foi de perdre son temps avec ça. Il lui dit, cela contredit les hauts degrés spirituels, même si son abandon n'est pas une condition pour le salut. Ce n'est pas une condition, si tu vas être protégé de l'enfer et de la colère d'Allah, d'abandonner ces choses-là, parce qu'elles ne sont ni détestées, ni interdites. Il lui dit, ainsi, le connaisseur d'Allah délaisse beaucoup de choses permises afin de préserver sa pureté intérieure, surtout lorsque ce permis constitue un intermédiaire entre le licite et l'illicite. Allahu Akbar. Et donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, aimait énormément son cheikh. Et subhanallah, Ibn al-Qayyim, aimait énormément son cheikh. Ibn Taymiyyah aimait énormément son élève. Ils se sont fait emprisonner ensemble parce qu'ils appelaient les gens au tawhid et à la sunnah, parce qu'ils combattaient le fanatisme aveugle, parce qu'ils faisaient face à différentes sortes d'hérésies, d'innovations, de falsifications des textes. On les a pris et subhanallah, on les a emprisonnés. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il s'est fait, comme je vous l'ai dit, emprisonné, surtout à la fin de la vie de son cheikh, et il n'a été libéré qu'après la mort de son cheikh. Et beaucoup de ses ouvrages, que ce soit les ouvrages de l'imam Ibn Taymiyyah ou de son élève Ibn al-Qayyim rahimahullah, ont disparu à cause de de l'opposition de ses détracteurs et de ses adversaires. Ils se sont opposés à lui au point de brûler certains livres, subhanallah, pour mettre fin à cette madrasa, à cette école salafia réformatrice attachée à la voie des pieux prédécesseurs. Et subhanallah, un de ceux qui ont participé à la destruction des ouvrages de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et de son élève Ibn Taymiyyah. C'est un amir, un prince algérien qui s'est installé à Damas et qui a réuni le maximum de livres pour les brûler d'Ibn al-Qayyim et de son élève. Le Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala a dit dans sa correction et vérification du livre Al-Kalim al-Tayyib de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, un des princes qui se sont installés à Damas dans le siècle passé et qui étaient de forte autorité et qui avaient de l'argent s'est mis à réunir les ouvrages de l'imam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim pour les brûler. Et s'il n'arrivait pas à convaincre ceux qui possédaient ces livres de les brûler, il les achetait d'eux ou leur demandait qu'ils lui offrent. Ou il cherchait d'autres moyens afin de les détruire pour secourir sa croyance du panthéisme. Le panthéisme, c'est le fait de croire que Allah est tout. Allah est dans tout. Donc, ça revient à mécroire en Allah et à dire que celui qui adore le feu adore Allah, celui qui adore la vache adore Allah, celui qui adore la Kaaba adore Allah, et ainsi de suite. Pour sauver ce madhhab-là, pour sauver cette méthodologie-là, cette croyance-là, eh bien cet homme a brûlé tous ses livres parce qu'ils étaient remplis d'arguments puissants qui réduisaient en miettes les fausses croyances erronées. Parmi ce que l'on peut citer, c'est la guidée de certains gens après avoir découvert des ouvrages de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et il est fort intéressant d'apprendre cela, car beaucoup étaient égarés, et subhanallah, ils étaient connaisseurs, ils avaient beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines, mais subhanallah, Allah Azza wa Jal les a guidés à la bonne croyance qu'ils n'avaient pas connue après avoir lu les livres de l'imam Ibn al-Qayyim et de son cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Parmi cela, ce que nous raconte le grand cheikh Hamad al-Ansari rahimahullah, qu'il rapporte de son cheikh Muhammad Hamid al-Faqih rahimahullah, un grand savant égyptien qui faisait partie de Ansar al-Sunnah al-Nabawiyyah, un collectif qui défendait la sunna et qui propageait le tawhid et la sunna en Égypte. Hamad al-Ansari a demandé à son cheikh et lui a dit « Comment as-tu fait pour devenir un muwahhid alors que tu as étudié Al-Azhar ?» Et l'université Al-Azhar, jusqu'à maintenant, propage des croyances erronées dans le domaine des noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors son cheikh lui a dit « Oh mon enfant, tu as posé une bonne question. J'ai étudié à l'université Al-Azhar et j'ai obtenu une licence. Lorsque j'ai obtenu ma licence, je suis revenu dans mon village afin que les membres de ma famille éprouvent la joie et leur bonheur. En route, subhanallah, il dit, en route, je me suis arrêté auprès d'un paysan qui labourait la terre. Lorsque ce paysan m'a vu, il m'a dit, prends place sur ce banc. Ce paysan avait un banc sur lequel il s'asseyait lorsqu'il faisait une pause dans son travail. Je me suis donc assis sur ce banc et j'ai été attiré par un livre qui était présent. Je l'ai pris et j'ai commencé à l'observer. Et ce livre n'était autre que le livre « Ijtima'u al-Juyush al-Islamiyyah ala Ghazwi al-Mu'attilati wal-Jahmiyyah » écrit par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Le rassemblement des armées islamiques contre les négateurs des noms et attributs d'Allah. Il dit, je me suis mis à lire ce livre et je m'y suis intéressé. Et lorsque le paysan m'a vu intéressé par ce livre, il m'a laissé un moment et n'est pas venu à moi. Le paysan avait l'intention de laisser Muhammad Hamid al-Faqih, rahimahullah, découvrir la croyance contenue dans ce livre. Puis, il est venu à moi et m'a dit « Assalamu alaikum, mon enfant. « Comment vas-tu? D'où est-ce que tu viens ?» Je lui ai répondu « D'où je venais ?» Le paysan m'a dit « Je suis content pour toi, que tu aies pu évoluer dans le savoir et que tu aies pu obtenir un diplôme. Mais, mon enfant, j'ai un conseil pour toi. » « Quel est-il ?» lui demanda Mohamed Hamid El-Faqi. Le paysan lui dit « Tu viens d'obtenir un diplôme avec lequel tu vas pouvoir vivre en Europe, aux États-Unis et autres. Et ce diplôme ne t'a pas enseigné ce qu'il y a de plus obligatoire. » Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a de plus obligatoire? Il me répondit, ces diplômes-là ne t'ont pas enseigné le tawhid. Ils ne t'ont pas enseigné le tawhid des salafs. Alors je lui dis, et c'est quoi le tawhid des salafs? Je vais te conseiller certains livres. Et alors le paysan commence à lui conseiller le livre As-Sunnah de l'imam Ahmad, le livre As-Sunnah résumé de l'imam Ahmad, le livre At-Tawhid de l'imam Ibn Khuzaymah et de certains livres de l'imam Al-Bukhari, de l'imam Al-Lalakai, des livres des savants de la Sunnah. Et alors Hamid Al-Faqi, après avoir été dans son village, est retourné et il a commencé à acheter ses livres et il est revenu à la Sunna par cette cause-là. Également, parmi ce que l'on peut citer, un grand savant également égyptien qui a été imam à la mosquée de la Kaaba de Mecca pendant entre 20 et 25 ans, qui est le cheikh Abdul Zahir ibn Muhammad Nuruddin Abu Samh. Ce savant-là, qui ne connaissait pas la croyance authentique, a découvert la sunna et la voie authentique après avoir lu le livre Adda ou Addawa, le mal et le remède, de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Quant au décès de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, les historiens sont unanimes pour dire que son décès est intervenu au cours de la nuit du le jeudi 13 du mois de Rajab 751 de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait que l'imam Ibn al-Qayyim a vécu 60 ans. Et on a prié sur lui dans la grande mosquée Al-Jami' al-Umawi, puis encore une fois dans la mosquée Jami' al-Jarrah. Et les gens qui racontent cela comme l'imam Ibn Kathir, pardon, nous disent qu'il y avait un très grand nombre de gens. Il y avait des savants, des juges, des gens pieux, vertueux, des gens de la masse qui ont tout fait pour porter son convoi funéraire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Ibn al-Qayyim rahimahullah a écrit plusieurs ouvrages, parmi lesquels Zadul Ma'ad fi hadi khayr al-ibad, la provision du retour réside dans la guidée du meilleur des serviteurs. C'est un livre qui est en 5 ou 6 tomes que l'imam Ibn al-Qayyim a écrit pour parler notamment de différents sujets, la sira, la biographie, la jurisprudence, la médecine prophétique, l'éducation et d'autres choses encore. Ce livre-là, il l'a écrit en voyage. Il y a aussi Madarij al-Salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui est connu en français sous le nom du Sentier des itinérants. Il y a aussi Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' al-shafi, qui est un deuxième nom, Ad-da' wa ad-dawa', le mal et le remède, un très grand livre. Il y a aussi Al-Fawaid, Tariq al-Hijratain wa Bab al-Sa'adatain et plein d'autres livres encore qui ont été écrits par l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse habiter dans son vaste paradis et nous permette de comprendre que ce sont eux nos exemples, ce sont eux nos modèles. On doit être sur leurs traces, marcher sur leur voie. On doit prendre en compte les sacrifices de ces gens-là. Et on ne doit pas abandonner l'héritage qu'ils ont laissé par la lecture, par la propagation, par le fait de tirer les enseignements dans l'éducation, dans le comportement et autres. Et on doit être fier d'avoir un héritage si riche et des savants si émérites dans cette noble communauté. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.